Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, hein, comme chaque lundi. On va coller en plein dans l'actu, hein, ce soir, puisqu'on va parler handball dans la première partie de cette émission, à, j'allais dire, presque peut-être une semaine d'un septième titre, hein, pour l'équipe de France homme de hand. On en reparlera avec notre invité, Philippe Rajot. On fera un petit point basket aussi, il s'est passé beaucoup de choses donc sur le basket, notamment le basket NBA, donc dans la capitale cette semaine. On fera naturellement un grand journal des sports avec Alexandre. Et puis, on aura naturellement notre ami Stéphane Desenclos pour revenir sur la semaine de foot. Alors, Philippe Rajot, notre invité pour le hand. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir,
président du comité de Paris, membre du conseil d'administration de la Ligue et puis membre aussi du CDO 75.
Tout
c'est
à
ça
fait, c'est ouais. Ça. Oui.
Le hand, c'est votre vie depuis très longtemps?
Oui, j'ai baigné dedans, on va dire.
C'est arrivé comment?
J'avais un club à côté de moi, j'ai fait du hand, j'ai fait un autre sport à côté.
Oui, c'était quoi?
C'était du karaté. Ouais.
Ah, c'est bien, on en parlait la semaine dernière.
Oui.
Voilà. Et il fallait que je bouge.
Oui.
Et j'ai trouvé ça très très bien. J'ai commencé par l'école et puis c'est monté, mm-hmm. jusqu'à être à assez haut niveau, on va dire.
Donc, il fait partie de votre vie, quoi.
Tout à fait. Depuis l'âge de 4 ans, j'en ai 65, vous voyez.
Ah, c'est bien, c'est bien. C'est un bel âge. Allez, on aura l'occasion de pénétrer dans les coulisses de ce sport. Elle a beaucoup parlé basket cette semaine. C'est Vanessa. Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, Philippe. Bonsoir à tous.
Wendy,
ça a été une semaine de folie. C'était génial, oui.
Ouais, c'était bien.
Ouais. Hein, on a été donc au centre sportif des Poissonniers, ouais. Suivre l'entraînement des jeunes joueuses du Eiffel Basket. Et aussi en présence de Pierre Rabadan et d'Éric Lejoindre.
Oui,
on y reviendra tout à l'heure.
Des fidèles.
Des fidèles,
ouais,
exactement.
De ouais. Salut Alexandre.
Salut Philippe, bonsoir
ça va
à tous.
Toi,
ça
je
va,
sais
ça
que tu as suivi beaucoup d'actu sportive encore cette semaine.
Encore une fois.
À la télé. Et puis bon, tu étais sur un événement, mais on en reparlera la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
On sera d'actualité sur l'héritage avec donc, le sport féminin chez nos amis de l'ARCOM.
Exactement, c'est chez nos amis de l'ARCOM avec Madame la ministre Marie Barsac qui était là, mm-hmm. et même Delphine Ernotte aussi,
oui.
et notre ami Riyad Salem.
Oui, voilà. Oui, oui, Riyad Salem qui nous a envoyé un beau message de vœux. Donc ce matin. Alors Philippe, donc l'équipe de France de hand va peut-être être pour la 7e fois championne du monde. On l'espère.
Écoute, on est tous derrière. Il faut déjà passer le quart de finale demain.
Bon, c'est l'Égypte.
C'est l'Égypte. Il faut voir l'Égypte. Au dernier JO, on a gagné 2-3 buts. Hein. Mm-hmm. Il ne faut pas minimiser cette équipe. Il y a une belle équipe.
Oui.
Et elle nous avait donné du fil à retordre. Je pense que si on passe l'Égypte, la finale est là.
Oui, oui. Demi-finale. Ah. Ce qui est quand même sidérant, on va le rappeler, c'est le sport le plus titré, hein, le hand. 6 fois champion du monde, 4 fois champion d'Europe, 3 fois champion olympique. Les filles, pareil, hein, donc elles ont été une fois championne olympique, 3 fois championne du monde et une fois championne d'Europe. Qu'est-ce qui fait la force? À chaque fois, c'est un renouvellement constant. On reconstruit et puis très rapidement, on retrouve une équipe compétitive.
Vous savez, on a la chance d'avoir, avec la fédération, les ligues et les comités, on a 650 000 licenciés.
Oui.
Donc, ce qui veut dire par là, c'est qu'à un moment, c'est un sport scolaire. Donc,
oui, au départ.
Au départ,
oui,
c'est un vrai sport scolaire. On avait les champions du monde du NSS, on avait tout ça à l'époque. Et donc, il y a un vrai vivier, que ce soit sur Paris et dans toutes les régions de France. Et c'est pour ça qu'il y a un grand travail qui est fait par les comités, les ligues. Et puis, ben, les meilleurs montent et on arrive à avoir un vrai suivi. On a des belles équipes de jeunes, en garçons et en filles françaises.
Oui.
Donc, là, je pense que... On a de beaux jours encore.
Oui, non mais en plus, ça reste dans le même état d'esprit, dans la même philosophie. À chaque fois, les équipes se renouvellent, hein, à peu près un quart à chaque fois dans les générations. Mais les équipes restent, parce qu'il pourrait y avoir des creux. Ouais, des creux, ça ne dure jamais très longtemps dans le hand.
Oui, mais le problème, je pense aussi qu'on a beaucoup de chance, c'est qu'avec les entraîneurs nationaux, quels qu'ils soient, on a eu des bons entraîneurs nationaux et en même temps, on a su faire le relais entre les jeunes et les anciens.
Oui,
et
mais
on a toujours amené des jeunes.
Il y a des fédérations qui n'arrivent pas à le faire, ça.
Oui, alors pourquoi je peux pas, voir. Il y a un vrai travail qui est fait quand même. Ouais. Hein, il y a un vrai travail.
On a eu l'occasion de l'interviewer à Demain le Sport. Il y a un président qui est fabuleux, Philippe Bana.
Oui, Philippe, Philippe, c'est le président de la fédération, ouais, avec le travail qui a été fait en amont avec toutes les autres présidents. Et je pense qu'il y a un vrai suivi. Vrai suivi. Philippe était issu quand même, il faut savoir quand même, c'était un ancien handballeur quand même,
oui, bien sûr,
qui a joué à Marseille. Mmh. Donc moi, je l'ai vu arriver à la fédération. Et après, il est monté, il est devenu DTN. Il a fait un vrai travail en profondeur à la DTN. Et voilà, ça commence à porter ses fruits.
Mmh. Alors, on aura l'occasion, je l'ai dit, de bien connaître et de bien pénétrer dans votre sport. Mais d'une façon générale, comment va le hand sur l'Île de France ?
Alors, sur l'Île-de-France, on ne va pas se plaindre, on arrive à avoir, on est presque 57 000 licenciés sur l'Île-de-France. Mmh. Avec
donc c'est
constant, on est en augmentation. Oui. En gros, il y a 7 départements.
Oui, oui, mais
donc, parce que maintenant, ça fait 10 ans qu'on s'est rassemblé avec les deux ligues. Parce qu'avant, vous aviez la Ligue Est et la Ligue Ouest.
D'accord.
Donc, il y a eu un rassemblement qui est fait. Donc, maintenant, le président l'a eu hier encore. Je l'ai eu hier. On a 57 000 licenciés quand même sur vous voyez le pourcentage, avec 32 % de féminines, hein,
ouais, sur l'ensemble. Je sais que c'est un sport très féminin.
Donc,
oui.
Et sur Paris,
c'est...
pardon.
Oui, c'est une progression de combien par rapport à ces dernières années?
Le hand, c'est féminin. Ouais, féminin, l'année dernière, on est aux alentours de 28, 30.
D'accord.
Ça progresse.
Progressivement, oui. Ouais,
et beaucoup chez les jeunes.
Mais tant mieux.
Ah,
mais ça vient justement de cette bonne politique, de ces bons résultats de nos équipes nationales. Parce que c'est vrai que médiatiquement, le hand, il décolle en 95.
Tout à fait. Oui.
Hein, avec après la première victoire.
Eh oui, bah oui, bien sûr. Non, ouais. Non, mais je pense aussi qu'il y a le travail, il se fait. Il y a beaucoup de clubs qui vont dans les écoles aussi.
Oui.
Et on a beaucoup de... Le sport, il n'est pas que sur le handball à 7, on fait du handball à 4,
on fait
un tas de choses. Ouais. Et en fin de compte, c'est très meneur pour les gens dans les écoles. Mmh. Au moins, vous faites du handball à 4, sur un terrain de foot, vous faites 3 terrains.
Oui, c'est plus facile à mettre en
place
aussi.
C'est plus facile à mettre en place. Vous faites tout de suite, il y a 24 jeunes qui peuvent jouer en même temps. Quoi.
Ça, c'est bien, oui.
Alors, le problème, est-ce que vous avez suffisamment d'infrastructures pour accueillir tous ces jeunes?
Non.
Parce qu'il faut des gymnases, il faut aussi des endroits en plein air. Comment faites-vous? Alors, je sais qu'il y a des clubs, on avait reçu le Paris Saint-Germain il y a 2 ans, 3 ans. Et je crois qu'ils avaient des équipes dans 11 arrondissements.
Oui, alors ça, c'est le gros souci qu'on a sur Paris, comparé à des villes, aux clubs qui sont dans des autres comités. Mmh. En fin de compte, nous, le comité de Paris, là, cette année, on va arriver à 3200 licenciés quand même. Hein,
d'accord.
Avec 35% de féminines.
Mmh. Oui,
on est sur les mêmes...
Oui, c'est ça, on est pas mal, on est bien, on est en bien de progression. Manque de chance, avec l'effet JO, on a à peu près on a 700 licenciés en moins.
En moins
700. On a refusé 700 personnes.
Ah oui, vous m'avez fait peur.
Non, on a refusé 700 personnes.
Vous avez été obligé, donc vous aviez en plus,
tous les clubs,
vous avez été obligé de
refuser. Ouais. Parce que,
c'est fou quand même.
Voilà,
hein.
Parce qu'en fin de compte, pour faire du handball, il faut un gymnase de catégorie C.
Eh ben oui.
Donc ce n'est pas du A, ce n'est pas du B, c'est du C.
Et
parce
le
qu'il faut
C,
des
ça se définit comment, si je peux me permettre?
C'est les terrains de handball.
Oui, voilà, c'est
voilà,
ça.
C'est un vrai... C'est les catégories B, ça doit être le basket, vous voyez.
Ah, d'accord.
C'est par rapport au traçage, au but et
oui,
tout
oui,
ça.
Bien sûr.
Donc il faut une catégorie C et on manque de
gymnase. Oui, bah oui.
Vous savez, sur Paris, vous avez tellement d'associations.
Oui, puis vous partagez avec d'autres sports.
On partage avec
d'autres
sports. Hein.
Oui.
Et donc, ça, c'est un véritable... On est en manque, voilà. Il faut savoir, par exemple, là, avant-hier, j'étais au conseil d'administration avec le comité, justement. Mmh. Quand vous voyez le SCUF, hein, sur l'Omnisport, ils ont refusé 2600 personnes pour tous les sports.
Oh là là.
Parce qu'ils sont à bloc et ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont à bloc.
Il y a un grand club de rugby au SCUF. Hein.
Ouais, ils sont en fédéral 2.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On les a reçus pendant le modèle de rugby pour ça. Ouais.
Et voilà ça. Mais malheureusement, donc on essaie de mettre des terrains de handball à 4 avec la fédération. La fédération a mis 3 ou 4 terrains de handball dans des arrondissements. Sauf que le handball, il y a un footer en côté de nous. Les terrains de handball à 4, ça sert pour le foot aussi. Hein. Donc quand on arrive, on ne peut pas faire ça parce qu'on est pris par le foot. Donc ça, on rentre dans des choses qu'on peut pas admettre. Je veux dire. Et en plus, il y a à part 2 clubs qui sont résidents sur des gymnases, tout le reste, ils prennent leur fardeau et ils tournent avec les ballons dans tous les gymnases. Bon, le PSG, ils ont 11 endroits.
Oui, oui, oui.
L'équipe pro à Coubertin.
Oui, oui, Coubertin, mais après,
mais après jours, les, oui. Tout le monde tourne. Vous ouais. prenez le PUC, c'est pareil, ils ouais, font tout le 13e. Enfin, ouais, ouais, le 20e, c'est Paris Sport Club, ils font le 20e, les finances, pareil, le 17e, c'est pareil. Donc, il y a vraiment un manque d'infrastructures. Et il faut se dire aussi que toutes les associations veulent tout le temps les mêmes tranches horaires.
C'est ça le problème aussi. Puis vous avez les écoles aussi un peu qui se gravent dessus. Il y a de toute façon cette question-là qui est posée déjà depuis longtemps,
ça...
du partage des terrains, des gymnases.
Oui, oui, non, mais ça, tout ça fait
des
que...
créneaux.
C'est très compliqué. Enfin, bon, après, je ne vous cache pas que demain, on a une réunion avec la mairie de Paris.
Oui.
Pour pas mal de choses, et ça en particulier aussi, parce qu'on s'aperçoit quand même que l'effet JO, eh ben on est bloqué.
Oui,
et tous les sports, hein, je pense que c'est
oui,
tous
oui,
les
oui,
sports.
Oui,
hein.
C'est le constat
oui,
qu'on avait
oui,
fait
oui.
à la rentrée.
Bon,
hein.
On parlera pas des budgets, hein, de ce qui fâche, ça va. Ouais.
On en parlera la semaine prochaine, on va se fâcher.
Les budgets, on va attendre.
Ouais,
nous, moi,
ça a des incidents sur votre sport, fatalement.
Oui, oui, bien sûr. Ouais, après, malheureusement, on fait avec.
Oui.
Moi, vous savez, j'étais président du comité avant, donc je suis arrivé par hasard au comité comme entraîneur d'une équipe d'une sélection, et du jour au lendemain, notre pauvre a eu un accident de voiture, il est décédé, et je me suis retrouvé président tout en travaillant, donc j'ai fait presque 28 ans de présidence au comité de Paris. Donc j'ai vu les manquements, tant au niveau du terrain, je les ai vus, ça date pas d'aujourd'hui.
Oui, ça date pas d'aujourd'hui.
Sauf que nous, à l'époque, on avait quand même un gros comité, on avait quand même 18 à 20 clubs à l'époque, avec les corpos, avec...
Ah oui, c'est vrai que les corpos, c'est passé de mode aujourd'hui.
Oui, il y en a moins maintenant. Mais moi, j'ai connu tout ça, donc à un moment, on avait du mal aussi à cette époque-là. Donc après, bon, les PTT ont disparu, c'est la poste, les finances ont disparu, l'USM3 a disparu, les cheminots ont disparu.
C'est moins tendance.
Donc, voilà, c'est ça.
Oui.
Ah, oui. Alors, quels sont quand même les départements qui ont le plus de problèmes et ceux qui, au contraire, en ont le moins ? Bon, Paris, ça va.
Bah, Paris, on a des problèmes, de toute façon. Oui. Le seul truc qu'on peut dire par rapport aux autres départements de l'Île-de-France, c'est qu'un club, moi, je connais bien le club de Meudon.
Oui,
j'habite
92.
Meudon. 92, Meudon à Forêt, je connais bien.
Je connais bien aussi.
Ah bon ?
Je suis du coin.
Bon, on a un maire qui est super pour le sport et tout ça. Ben, il n'y a pas de problème, parce que les clubs résidents partagent les installations. L'association sportive, générale, donne les créneaux qu'on a besoin. On arrive même à avoir les créneaux des gymnases qui sont dans les collèges.
C'est à Pierre et Marie Curie.
Côté, de l'autre côté. Et donc, voilà. Et donc, le process n'est pas du tout le même avec le sport à Paris, qui est très dur. Pour les clubs parisiens de tous sports, je suis convaincu, c'est tous les sports, et avec les clubs des autres comités qui sont résidents dans leur ville, avec d'autres budgets. Il faut savoir que le budget d'un club comme Meudon, au départ, donné par la SOS, est plus important que celle que nous donne la ville au comité de Paris.
D'accord. Ah oui.
Non, mais c'est vrai qu'à Meudon-la-Forêt, il y a beaucoup d'infrastructures sportives.
Oui, c'est là-bas aussi.
Et alors, il y a des départements où il y a des petits manques quand même.
Oui, oui, il y a des manques. Moi, vous voyez, j'ai ma famille dans le 24, à Périgueux. Donc, si vous... ouais, voilà. Donc,
très belle région, mais la
très belle région, mais c'est bon. Il faut faire du sport.
Ouais.
Mais bon, là, par contre, vous avez trois clubs sur deux gymnases, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc puis, là, on arrive à...
Est-ce qu'il y a des fusions de villes et de villages, comme ça se fait dans beaucoup d'autres sports, justement pour perdurer?
Alors, il y a des fusions pour certaines...
au niveau des clubs.
Alors...
Des ententes
Oui, il y a des ententes qui sont faites, surtout pour faire du haut niveau.
Oui.
Nous, sur Paris, on a deux ententes, on a des ententes,
oui.
pour faire progresser les jeunes, pour qu'ils arrivent au championnat de France, que ce soit en jeunes filles, en jeunes garçons. Qui sont gérés par deux clubs, par deux clubs, mais il y a des fusions pour faire voir qu'est-ce que le haut niveau. Sans ça, bah par exemple, le SCUF, le Paris 18 handball, est parti au SCUF, directement été absorbé par le SCUF, parce qu'ils étaient dans le 18e, ils n'arrivaient pas à voir ce qu'ils voulaient. Donc avec le SCUF, ils ont un petit peu plus. Mais sans ça, non. Ça mènerait à rien sur Paris de fusionner.
Oui, bien sûr.
On perdrait des clubs, et puis ça rendrait nos championnats...
Donc, à l'heure actuelle, la priorité, c'est d'essayer d'avoir davantage d'infrastructures. C'est le désavantage actuellement, c'est votre priorité.
Oui, c'est notre priorité. Ça, il faut savoir, bon, on a des réunions. Après, On a des réunions et toutes les assos, quelles qu'elles soient, tous les sports, ils ont tous les mêmes problèmes. Mmh. Parce que via nos ligues et nos fédés, on a des trucs qui sont, par exemple, les sélections, on est obligé de les avoir, on ne peut pas faire autrement. Donc quand vous devez emmener des jeunes en sélection, hier, par exemple, on organisait une sélection de jeunes, on n'a pas pu avoir un gymnase en Paris, quoi. Même si on l'a demandé bien avant, parce que tout était complet, et je peux le comprendre. Donc on s'est retrouvé à la maison du handball.
Oui, alors justement, j'allais vous dire, c'est aussi paradoxal, parce que c'est un fabuleux outil, la maison du handball. C'est l'équivalent du Clairefontaine au foot, de Marcoussis pour le rugby, ou de Saint-Quentin pour le vélo, quoi.
Tout à fait. Moi, j'ai connu, écoutez, avec le travail que je faisais avant, j'ai connu le rugby à...
À Clairefontaine.
Au Château Ricard.
Oui, c'est pas très loin de chez moi pour ça.
Voilà. Et après, on est venus, ils sont venus à Marcoussis, c'est un bel outil. Mmh. Et en fin de compte, le résultat des deux a fait la maison du handball à Créteil.
D'accord, ça a été inspiré.
Oui, ça s'est inspiré. Il faut savoir que maintenant, il y a beaucoup de clubs qui viennent, qui viennent pour s'entraîner et tout ça. Non, c'est un très très bel outil qu'a fait la fédération et qui est ouvert à tout le monde, quoi.
Et ça peut aussi expliquer qu'on perdure dans les résultats de...
Vous savez, les équipes de France passent faire leur stage là. Donc on peut pas, c'est comme Marcoussis, on peut pas passer plus d'une semaine. Hein. Parce qu'après... Il n'y a rien autour, quoi. Donc,
C'est fait exprès. Hein.
Oui, c'est fait exprès. Comme Marcoussis.
Pour éviter les tentations.
Comme Marcoussis, tout le monde. Ouais. Quand vous passez 15 jours à Marcoussis.
Et Clairefontaine, c'est pire. Hein.
Et Clairefontaine, alors là,
vous êtes carrément dans les bois.
C'est encore pire, là.
Là, il n'y a pas de mauvaise tentation.
Non. Ouais. Non, c'est un super outil, franchement. On est très bien. Et puis, on n'est pas coupé de la fédération. Mm-hmm. En fin de compte, on voit des gens qui travaillent à la fédération, on voit tout ça. On arrive aussi, il y a quelques, quand on demande à avoir amené des jeunes, voir des équipes de France s'entraîner, on peut les avoir. Ça peut être vraiment c'est vraiment un vrai partage.
Et je crois que vous utilisez les anciens champions, ils restent avec vous au contact.
Oui.
Ça, c'est important. C'est peut-être aussi ça, la réussite de votre sport. Parce qu'il y a des sports où, malheureusement, les anciens champions, on n'utilise plus leurs compétences.
Oui, non, mais ça...
Vous, non ?
Ouais, non, franchement, nous, quand on peut, on essaye d'avoir... Bon, j'avais la chance de pouvoir, quand j'étais avec les filles, d'avoir plus facilement des filles. Même des garçons, on demandait à des jeunes de venir, de faire des autographes et tout ça, ils sont vraiment...
Il y a un passage de témoin, en quelque sorte.
C'est important. Ouais. Alors, on va rappeler quand même pour nos auditeurs que vous avez beaucoup aussi œuvré dans l'ombre de l'équipe de France féminine.
Ouais, j'étais...
Olivier Campbell.
Ouais, j'étais avec Olivier, pardon. Avec Olivier, j'ai connu Olivier, moi, en 2005. Même avant, j'ai joué contre lui. Ça remonte. Hein. Et puis, on a fait, grâce à mon métier, quoi. Donc, on a fait un parcours depuis 2006. Et 2006, on a fait un parcours. J'ai vu les aléas, les montées. J'ai vu commencer Amandine Leno qui avait à peine 17 ans.
Oui.
Donc, vous voyez...
Et puis, des personnalités charismatiques. Daniel Costantini. Claude Onesta, qu'on a vu sur les Jeux.
Moi, je l'ai connu comme entraîneur. Avec la NS. Non, c'est des gens, en fin de compte, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait... Ils ont continué dans leur savoir. Ils ont transmis leur savoir. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte... L'équipe de France masculine, c'est très dur d'être entraîneur avec des joueurs avec qui on a joué. Mmh. Et en fin de compte, ça se passe très très bien. Le savoir, de faire passer un savoir à des gars avec qui on a joué, faut pas croire, c'est très dur. Hein. C'est pour ça que des fois, on se dit oui, mais non, c'est très très dur. Et en fin de compte, cette passation se passe super bien et c'est très bien pour notre sport.
Et je me demandais, petite question de curiosité, qu'est-ce qui motive les filles à pratiquer le handball, vous qui avez été justement coach des équipes féminines, et qu'est-ce qui les attire, comment elles arrivent à s'épanouir aussi dans ce sport?
Vous savez, je pense que vous avez beaucoup de filles qui viennent de l'Île-de-France quand même. Ouais.
Mm-hmm. Donc il n'y avait pas beaucoup de choix peut-être au début.
Voilà, au début, il n'y avait pas beaucoup. Le sport féminin, il y en a beaucoup qui viennent du 93.
Oui.
Si vous voulez, donc le sport dans le 93 à l'époque, il y en a eu, je vous dirais Poisson, elle était dans le 93, elle s'est retrouvée quand même, elle a commencé le handball, et elle a été repérée grâce aux sélections que je parlais tout à l'heure, et ainsi de suite, la ligue et tout ça, et elle s'est retrouvée à Chartres, elle avait 16 ans à Chartres, 17 ans à Chartres, vous voyez. Et donc, elle s'est épanouie parce qu'elle faisait son sport. Elle aimait ce sport.
C'est une ville sympa en plus, Chartres.
Et puis, elle est montée. Et puis, maintenant, elle est en équipe de France. Elle joue beaucoup à l'étranger.
Il y a un certain vivier. Puis, c'est aussi un outil de développement.
Je suis convaincu que le plus gros vivier qu'il y a en France pour le sport, il est en Île-de-France.
D'accord.
Ah bah oui, bah,
j'en suis
on le voit au
pour tous les sports. Partout,
sport, hein,
tous les sports.
Ouais, bien sûr,
c'est la réalité.
Un cinquième de la population, mixité.
Et je pense que c'est là qu'on se trompe, c'est que si on arrivait à faire quelque chose au niveau de tous les sports, hein, je parle, on arriverait à avoir encore des équipes, des jeunes encore meilleurs. Moi, j'en suis convaincu de ça.
Et est-ce que les différents comités de rentrée entre eux, tous les différents comités départementaux, les Yvelines, l'Essonne, le Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, tout le monde travaille ensemble?
Oui, oui, tout à fait.
Il n'y a pas un qui, ça va?
Non. Franchement, maintenant qu'il y a une ligue unique, c'est plus facile. On a plus de conseils d'administration. Tous les présidents de comités sont conseils d'administration d'office. Donc, tout le monde se parle. Vous voyez, là, j'ai fait un tournoi international de moins de 17 féminines. J'étais avec le 91, c'était 75-91, vous voyez.
Ouais.
Donc,
c'est bien.
On ne peut pas faire mieux. Là, le 95 organise avec le 94 et ainsi de suite. Donc, non, tout le monde s'entend bien par rapport à ça. On est tous sur la même voie, on veut faire évoluer notre sport.
Alors, vous parliez d'action pour les jeunes aussi. Ouais. Il y a du hand à 4 et du baby hand.
Le baby hand.
C'est quoi, c'est des tout petits, 2 ans, 3 ans
De 3 à 5 ans.
Ah, ça doit être bien.
Et en fin de compte, c'est dans la fédération a commencé par ça. Ça faisait longtemps que ça existait, mais ça a été officialisé par la fédération. Et en fin de compte, on s'aperçoit que tous les clubs y adhèrent. Quoi.
Et les jeunes restent?
Ah oui.
Ah, c'est ça qui est bien.
Parce qu'en fin de compte...
C'est pas que la garderie. Quoi.
Non, c'est pas du tout la garderie, c'est de l'éveil. Hein. Attention, c'est de l'éveil pour les gamins. Ouais. Et quand on voit... Moi, dans mon ancien club, ça remonte. Hein. J'avais commencé le baby hand, et en fin de compte, de l'autre côté, j'avais les mamans qui faisaient leur cours de step et tout ça.
Ah oui. Oui.
Donc les jeunes se retrouvaient parce qu'ils y retournaient, maman est là, donc il n'y avait pas de problème.
Ça va.
Mais c'est très très bien, franchement, c'est adorable. Il y a tout un panel qui le handfit par exemple.
Oui, alors c'est quoi le handfit?
Alors le handfit,
pour grand public.
C'est en fin de compte c'est du hand, c'est pas du handball, hein, c'est plus du je dirais de se sentir bien, voilà. On a des ballons, on se fait des passes, on s'assoit,
D'accord.
Mais franchement, c'est très bien pour faire découvrir le sport chez des entreprises. C'est vraiment adapté aux entreprises.
Ouais, un peu comme le foot en salle, quoi. C'est un peu
tout à fait là, on se sert des cages à la fin, mais avant il y a tout un process avant qui est mis en place. Oui. Mais ça marche bien, ça. Hein.
Et j'ai vu qu'il y avait aussi du beach hand.
Ouais, alors le beach hand. Alors
on peut faire sur le sable là-bas.
Oui,
la plage.
La fédération a construit un stade de beach hand à Créteil. On a un stade.
Ouais, j'ai pas encore vu. Tiens.
Il faudrait. On a un stade de handball à 4. Le président a fait ça dans sa première mandature. On a Et en fin de compte, on s'aperçoit que le beach c'est terrible, quoi. Les jeunes s'éclatent, quoi.
Et tout ça fait que donc les jeunes. Et ça est dans vos sports, quoi.
En fin de compte, on s'aperçoit que quand le beach, c'est beaucoup de jeunes qui pratiquent le handball en club, et en même temps ils viennent jouer avec leurs potes qui sont licenciés sur le beach des plages, quoi.
Ouais, c'est ça, la plage, que le volet avait su faire, quoi.
Bien sûr.
Ouais.
Et puis on sait très bien qu'on va arriver au sport olympique avec ça.
Bien sûr. Ouais. Alors vous faites aussi des formations, c'est important. Hein, on peut vivre d'abord du hand. Il y a des métiers. Le hand permet d'être créateur d'emploi.
Ben, maintenant, il faut savoir que la fédération a voulu que toutes les équipes soient encadrées par des gens diplômés.
D'accord.
Donc, on peut passer par les BBGEPS et des GEPS, on peut passer par tout ça. Et en même temps, ça donne des formations. Et en fin de compte, les jeunes ressortent avec un diplôme où ils peuvent travailler en mairie, dans les écoles et tout ça. Et dans les clubs sportifs en même temps. Donc, c'est vraiment une sortie pour des jeunes qui, malheureusement, mais il faut passer par les BGEPS et des GEPS. Et des formations qui sont maintenant qui sont vraiment bien faites. On les fait en présentiel, mais on peut les faire aussi en direct de chez nous. Quoi. Il y a
Et vous formez les dirigeants bénévoles?
Oui.
Aux problèmes administratifs.
Oui. Alors, en fin de compte, ça, c'est fait par la Ligue. Hein.
Ouais.
C'est fait par la Ligue. Il doit y avoir un ou deux stages dans la saison parce que c'est demander des bénévoles venir. Donc, il y a peut-être deux ou trois sessions en présentiel. Le reste, ça doit être sur 25 heures. Et ça permet de savoir remplir une feuille de match.
Ça, c'est très important. C'est vraiment bien.
Être en aide et puis savoir. Et en fin de compte, on est licencié. Après, on se licencie. Donc, ça veut dire qu'on a un vrai, comment je pourrais dire, un droit. On a un droit. On n'est pas dans les tribunes, on n'en critique rien. Là, tu as ta licence, tu es reconnu. On forme des agents de table pour tenir les tables de marque. Avant, on mettait à l'époque, moi, où je jouais, on prenait n'importe quel parent. Ouais, je vais faire la table de marque et on avait des soucis. Donc maintenant, c'est une formation, tout ça, c'est
cadré.
Et la personne qui a fait cette formation, elle sera apte à faire ça. Voilà.
Donc ça, c'est obligatoire, vous dites ?
Obligatoire, non, mais on va rentrer dans un process où on va le faire. Alors, sur des départements, les petits clubs, c'est compliqué à mettre en place parce que les petits clubs, c'est beaucoup de bénévoles et les bénévoles, il faut les trouver. Mais déjà, au niveau de la Ligue, il faut déjà des agents, les formateurs de table et tout ça. Il faut des accompagnants pour les jeunes arbitres et tout ça. Donc, en fin de compte, on est en train de faire table rase sur beaucoup de choses là-dessus.
Alors, l'arbitrage aussi. Vous formez au métier d'arbitrage ?
Alors, ce n'est pas un métier, l'arbitrage.
Oui, c'est dommage. Ah bon,
il n'y a pas d'arbitrage.
Non. Aucun dans le monde qui vit de l'arbitrage ?
Il y a peut-être au très haut niveau.
Oui, voilà, c'est ça.
Il y a peut-être... Sur l'ensemble de tous les arbitres, il y a peut-être deux paires arbitres d'accord, professionnels. Le reste, ils sont tous pas amateurs.
Oui, non, mais c'est ça. Oui. Mais il y a quand même des jeunes
intéressés beaucoup.
Par arbitrage.
Oui, et puis il faut savoir que la fédération nous demande de faire des paires d'arbitres, femmes et hommes. Donc,
c'est bien.
Donc on passe par des JAJ, des JA, des T3, T2. Ça, c'est des formations qui sont faites dans le comité. Une fois qu'ils ont ça, de toute façon, vous avez un socle. Vous ne pouvez pas monter si vous n'avez pas fourni un arbitre, un cela. Et derrière, ils rentrent dans la filière jeune arbitre. On est jeune arbitre jusqu'à 25 JA. Et après, ils sont pris par la Ligue. Après, s'ils sont capables de monter au niveau national, ils montent.
Il y a un âge limite pour l'arbitrage ? À 40, 45 ans, c'est fini, non ?
Plus que ça.
Ah oui, on peut arbitrer plus longtemps.
Moi, je crois que je ne peux plus. Mon frère arbitre encore. C'est mon jumeau, il a 65.
Ouais. Mais entre nous, est-ce qu'il y a des problèmes ? Le public, il est plutôt tranquille ou non ?
Non.
Ah bon ?
Non, ça commence à venir. Mais c'est partout, vous savez. Je pense qu'à un moment, il ne faut pas se voiler la face. On a un peu...
C'est le reflet de la société, hein,
bien
sport.
Sûr, c'est le reflet de la société.
C'est des fouloirs pour certains, quoi.
Et à un moment, ce que je...
Certains frustrés, quoi.
Voilà, c'est pas parce qu'on a un gamin de moins de 9, en 11, qui met 15 buts, que c'est le meilleur du monde. Et
non,
vous avez des parents, et vous avez des parents. Et ça vient des parents. Hein, les gros soucis qu'on a, c'est pas avec les jeunes.
C'est
avec les parents dans les tribunes.
C'est un vrai problème dans tous les sports.
Bien sûr.
C'est pour ça aussi qu'il faut aussi bien former les éducateurs. Il ne faut pas oublier que ce sont des éducateurs parce que souvent aussi l'équipe est à l'image de l'éducateur. Donc c'est très important. Et comme vous l'avez dit, le problème principal, ça reste les parents parce qu'ils sont sur le côté, ils sont persuadés que leur enfant, c'est le meilleur du monde, ils engrainent, etc.
Donc mais il n'y a pas de colibet quand même.
C'est pour ça que les arbitres, c'est quand même... courage à eux, surtout que c'est du bénévolat, etc. Donc c'est quand même bien.
Et puis il ne faut pas se voiler. Hein. Je vais dire franchement, c'est comme il disait, c'est le reflet de la société.
On n'en
arrive pas quand même, on n'arrive pas, on a quelques gros problèmes.
Il n'y a pas de débordement.
Il y a eu des débordements.
Oui. Après, des débordements.
Mais bon, ça va, il ne faut pas non plus. On peut les compter des gros soucis, on peut les compter sur les doigts d'une main, vous voyez, les gros soucis sur l'année. Hein.
Bon, c'est pas certains sports, il faut le dire, hein, comme le foot, où il peut y avoir des propos homophobes, mais il y en a, non ?
Non, il y en a eu quand même quelques-uns. Quand même.
Ah bon ?
Mais c'est la société.
Oui, c'est ça, c'est à l'image.
C'est à l'image, vous savez. Par contre, c'est puni.
Je
peux vous assurer qu'il y en a, eu un là qui a fait quand même un truc qui était assez grave.
On va jusqu'à radier, jusqu'à la
radiation. Ah, mais il a pris un an.
Un an ? Ouais, c'est pas assez.
Il a pris un an.
Ouais.
Il a pris un an et croyez-moi, ça lui a fait tout drôle. Il y en a un autre là qui a eu. Il a pris un an et là il passe.
En commission de discipline.
Ah non, c'est. Oui, non, mais c'est pire. Ouais. Il va au civil maintenant.
Oui.
Ah oui,
et,
d'accord.
Et
très
des
bien.
Actes de violence sur le terrain aussi
Moins, je trouve.
Oui,
parce que si vous voulez, le problème c'est que maintenant ils savent très bien qu'ils prennent cher.
Mm-hmm.
Donc quelque part, il y en aura toujours. Hein, on ne peut pas l'éviter. C'est un match. C'est un sport de contact.
Hein. Oui, non, mais bien sûr.
Mais on a quoi sur l'année ? On a 50 dossiers, c'est tout ce qu'on a. 50-60 dossiers. Quoi.
Oui, ça reste
correct.
Tout à fait correct.
Comme disait Alexandre, ça doit être une réflexion collective, c'est-à-dire que ça vient de l'équipe jusqu'aux parents, si c'est bien ça que...
Même la politique du club, etc.
Voilà, exactement,
De toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein. Quand on joue, quel que soit le bout dans la vie... Hein. On est le reflet de l'entourage.
Très bien. Allez, la pause musicale. Et ensuite, on poursuit cette émission consacrée beaucoup au sport par équipe, notamment le hand et le basket après.
Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure. Que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Si drôle, sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, regard qui frôle, quelquefois si seul. Si seul, oui, mais si seul.
Et naturellement, notre émission, vous pourrez la réécouter très rapidement en podcast, hein, comme toutes les émissions chaque semaine. Pour le handicap, on fait aussi beaucoup au niveau du hand.
Oui, oui, bien sûr, on fait du hand ensemble, on appelle ça. Oui. Hand ensemble. On fait donc là cette année, c'est la deuxième année aux finalités des Coupes de France. Il y aura du handball fauteuil.
Oui, et là aussi, ça vous a amené du monde et,
ouais, oui, ça amène,
et vous pouvez les accueillir.
Ouais. Ben, nous, sur Paris, on n'en a pas. Hein. Je vous le dis tout de suite, on n'en a pas parce qu'il faut des infrastructures.
Oui, c'est ça le problème.
Il faut beaucoup de choses. Dans le 78, il y en a.
Oui.
Il y a une belle équipe, même. Et puis, bon, sur toute la France. Et handball fauteuil, c'est fabuleux à voir. Et on a du handball non-voyant aussi.
Ah, oui.
Et sourd à non-voyant, donc ça c'est...
C'est impressionnant.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant.
Ouais, ouais, ouais. Avec les arbitres qui ont des drapeaux et tout.
Oui,
c'est...
un peu l'équivalent de City-Foot, quoi.
Ouais,
ouais,
mais...
Non ouais. C'est... Avec des bruits, on serait perdu avec
sourds
des
et tout, c'est franchement... Ouais. Et on fait les finalités de la coupe, ces deux trucs, on va... ces deux représentations. Ouais. Le président a voulu les mettre l'année dernière en finalité de Coupe de France à Bercy.
Mm-hmm.
Et ça sera ça. On va revoir ça. Moi, je suis assez bluffé. Je suis bluffé, mm-hmm, franchement. Hein.
Alors, on parlait aussi de la formation. Oui. Il y a aussi des formations économiques et administratives pour les bénévoles.
Oui,
parce
oui.
que c'est un sacré problème. Tout le monde, les gens se retrouvent bénévoles, mais bon,
oui,
il y a une gestion de club à faire. Gérer l'argent, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Ça s'apprend.
Malheureusement.
Surtout qu'on est responsable.
Civilement.
Ah oui, oui.
Bah, il faut savoir que c'est de l'argent public. Hein.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Donc, et c'est là que rentrent en lien ces comités. Hein.
Mmh.
Parce qu'en fin de compte, dès l'instant où vous avez un club qui se monte, quel qu'il soit, à quel endroit, il rentre en contact avec le comité, on leur explique comment ça fonctionne. Et nous, comité de Paris, de handball, comme tous les autres comités de sportifs, on les aide. On les aide à être sur l'administratif. Pendant un an, ils sont plus ou moins sous tutelle, on va dire. On regarde un peu ce qui se passe pour leur faire voir les... Parce que quand on arrive, entre le comité, la Ligue et la Fédération, ça fait beaucoup de choses à apprendre.
Bah
et,
oui.
et du jour au lendemain, c'est compliqué. Donc nous, personnellement, nous, on les aide, que ce soit sur l'aspect technique avec nos entraîneurs et le comité sur l'aspect administratif.
Alors Philippe, je sais que vous étiez privilégié cette semaine. Vous avez eu l'occasion d'aller au basket.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Hein, la transition va être belle. Vous étiez, je crois, jeudi.
Jeudi, j'y étais, oui.
Ouais, très bien.
Quand les sports sont gagnés.
Ouais, bah c'est bien, c'est bien. Bon, ouais. Votre impression.
Écoutez, c'est...
L'homme du hand au basket.
Vous savez,
même si vous aimez comme nous tout,
j'aime tous les sports.
Hein, comme voilà. nous, bien sûr.
Franchement, c'était extraordinaire.
Ouais.
Bon, après, bien sûr, il y a moins Mbappé qui est là, mais je pense que tout l'aspect, l'aspect américain.
Voilà.
Le était business là. Américain, oui.
Non, business.
C'est ce qui
après...
manque, c'est ce qui manque au
non, hand, même le show.
Le show.
Le show. Voilà, le show. C'est ce qui manque au hand, peut-être.
Ben, au hand, oui, il le manque, mais c'est compliqué parce que si vous voulez, là, c'est des franchises. Donc, on a tous les internationaux, plus ou moins, tout de suite là. Les équipes de France, quelles qu'elles soient. Je parlais pour le handball que je connais bien. Par exemple, si vous voulez faire un show avec les garçons et les filles, le championnat du monde garçon ou championnat d'Europe est au mois de janvier, les filles sont en décembre.
Oui, oui.
Donc là-dessus, c'est très compliqué. Après, il y a les clubs, il y a tout ça.
Ouais, et après,
pour trouver, ça serait qu'au mois de juin, est-ce que ça vaut le coup?
C'est les vacances après.
Voilà, c'est ça. Mais franchement, j'enlève l'aspect économique parce que c'est comme ça. Mais c'était extraordinaire.
Oui, une ambiance de folie. 15 900...
Tu t'es régalé, hein. Ouais. Tu t'es régalé cette semaine, Vanessa, toi.
Alors, je me suis régalé, en effet. Donc, deux matchs, hein, donc des Spurs contre les Indiana Pacers. Donc, jeudi à 20h, donc à l'Accord Arena à Bercy. Puis, samedi à 18h. Et puis, donc, autour
ça
de
ces... Ça fait des bonnes audiences, hein, je crois, à la télé.
Oh, 900
et quelques mille spectateurs. Hein.
Spectateurs.
Ouais, 900 et quelques mille chez les amis de Canal+. Ouais.
Un peu moins que ça.
Il y avait aussi alors, Sport,
comment
Bein et, c'était Bein et Canal cumulé, voilà. Le chiffre, j'ai plus le chiffre en tête, mais voilà.
Ça a été annoncé sur l'équipe aujourd'hui. Hein.
Exactement. Et donc, autour de ces deux matchs et de la venue évidemment de Victor Wembanyama à Paris qui a fait un très gros choc médiatique, hein, un très gros engouement médiatique, il y a eu dans la capitale, dans différentes infrastructures sportives, tout un tas de manifestations. Tout d'abord, il y avait au Carreau du Temple, il y avait la NBA House. Vendredi, à l'Accord Arena, il y a aussi eu le NBA Paris Jam, le match des célébrités. Puis il y a eu les Hoops Bus. C'est des bus, hein, qui, aux États-Unis, vont amener, hein, le basket un peu partout. Et puis nous, on était donc mercredi dernier au centre des Poissonniers dans le 18e arrondissement. Il y avait deux clubs, hein, de basket, le basket Paris 14 et le FL Basket.
Et qu'on essaiera d'avoir d'ailleurs les deux dans une prochaine émission.
Exactement.
Avec le Paris Basketball.
Ces jeunes filles qui sont donc des collégiennes, elles sont venues s'entraîner dans ce centre avec des coachs de la NBA, donc un Américain et une Française. On a pu assister à ces entraînements et puis on a rencontré Pierre Rabadan, donc l'adjoint au sport de la maire de Paris.
Comme je l'ai dit, un fidèle de notre radio. Hein.
Oui, oui, tout à fait, exactement. Voilà. Des JOP et de la Seine qui étaient présents et puis le maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre.
Lui aussi un fidèle.
Exactement.
Ouais.
Donc on va d'abord écouter Pierre Rabadan à notre micro.
Bonjour.
Peut-on imaginer que le basket devienne un outil sociologique et pédagogique, comme c'est le cas un peu dans les clubs de foot?
Moi, je crois que c'est déjà le cas. Ce n'est pas parce qu'on en parle peut-être moins que d'autres sports, bien que ce n'est pas le sport le plus mal servi et le moins bien couvert médiatiquement. Vous en parlez à raison aujourd'hui. En plus, vous avez vu les différentes mobilisations qu'il y a eu sur l'impact éducatif et social du sport. Le basket joue un rôle majeur là-dessus, et particulièrement à Paris. Il y a en dehors de la semaine qui nous réunit autour de la NBA, plus 30% par exemple de licenciés depuis l'année dernière. C'est un chiffre en constante progression, et on voit que la culture du basket, elle émerge. Et évidemment, ça se voit plus dans les médias, parce que maintenant on a le Paris Basket qui brille sur les parquets européens et les parquets français. Mais c'est un sport qui compte et qui marche très bien à Paris, sous différentes formes. C'est aussi ça qui est nouveau. Vous avez vu sans doute qu'on a rénové beaucoup de terrains de 3-3, presque 50 depuis sur les 4 dernières années. Ça faisait partie aussi de notre volonté d'avoir un espace sportif plus accueillant et de tirer d'autres publics vers ces lieux-là. Le basket féminin se développe aussi beaucoup, on est très contents. Il y a encore du travail évidemment, mais oui, que ce soit pour le basket ou pour n'importe quel sport, et c'est bien pour ça qu'il est important de mieux le financer et de le prendre non pas comme un loisir mais comme un outil de santé publique et d'éducation. C'est évidemment un vecteur majeur d'intégration, d'éducation et de vivre ensemble qu'il faut arrêter de considérer comme un petit peu la queue du peloton et que sur lequel on fait des ajustements à chaque fois. C'est l'occasion de le rappeler aujourd'hui, vous m'en donnez l'occasion dès le début, mais c'est vrai que, ouais, bien sûr, on est inquiet, vous voyez bien, le mouvement sportif est inquiet. On vient pour la plupart, ceux qui ont eu une carrière de sportif ou de sportif, on est tous issus des petits clubs, ça nous a construit en tant que personne, ça rattrape parfois des difficultés qu'on peut avoir aussi dans la vie. Alors évidemment, il y a les grandes stars, ceux qui percent comme... et qui vont à un niveau d'exposition très élevé parce qu'ils sont très talentueux, comme évidemment Victor Wembanyama, qu'on est très heureux de revoir à Paris. Mais c'est pas que ça, il le disait ce matin d'ailleurs aux jeunes à qui l'encadrait à la Cor Arena. Il disait si j'ai un conseil à vous donner, d'abord prenez du plaisir et surtout amusez-vous. Et c'est ça la base de départ du sport, c'est qu'on a des règles communes, on les respecte et on prend du plaisir, on s'épanouit en grandissant avec des gens qui sont différents, d'une culture différente, d'un niveau social différent, d'une origine peut-être différente. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Et il y a peu d'équivalents. L'école joue un peu ce rôle-là. Mais sinon, il n'existe pas d'autres, ou peu d'autres, trop peu d'autres outils pour faire ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'inquiète beaucoup de voir la direction et les annonces qui ont été faites. Donc on va continuer à se mobiliser pour que ça n'arrive pas. Après les Jeux, et pardon d'être un peu long là-dessus, mais on espérait même, on avait l'ambition, après les Jeux réussis, d'avoir une autre considération et un autre mode de financement du sport qui soit beaucoup plus ambitieux. Enfin, je rappelle qu'on est à 0,15% du budget de l'État. On espérait parler d'une perspective qui nous amène à 0,5%, pourquoi pas 1% à terme, qu'on serait largement bien dépensé. Et aujourd'hui, on s'en éloigne parce qu'on a encore vu des contraintes financière supplémentaire. Donc ça entame pas notre combativité, mais au contraire, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'athlètes et de personnes du milieu du sport. Et croyez-moi, on va se mobiliser. C'est pas juste pour faire en sorte que le sport soit mieux traité. Il y a vraiment un enjeu d'éducation, un enjeu social derrière qui est trop négligé. Et on peut plus fonctionner sur un système qui est parfois qui repose que sur la bonne volonté des gens. Il faut des moyens, il faut des infrastructures. Alors ici à Poissonnier, on a un bon exemple, on a refait entièrement le complexe, mais il en faut beaucoup d'autres.
Voilà donc pour Pierre Rabadan, un petit mot sur ce que vient de dire donc Pierre Rabadan.
Oui, il a tout à fait raison. Là, pense qu'à un moment, le sport, c'est vecteur.
Oui.
Donc,
oui.
Je suis convaincu que si on arrive à avoir des infrastructures, les gens. Ça amènera plus de monde et plus de sportifs. Ouais. Et je pense qu'on va calmer beaucoup de choses.
Oui, on en reparlera beaucoup la semaine prochaine.
La semaine prochaine, bon, on en reparlera.
La suite, monsieur le maire du 18e, maintenant.
Donc, Éric Lejeune, oui, qui s'est exprimé donc, sur le développement du basket dans son arrondissement, le 18e. Et puis, qui aussi a répondu à notre question sur l'engouement des jeunes filles présentes ici au centre des poissonniers qui sont venus s'entraîner donc, avec les coachs de la NBA. On va l'écouter tout de suite.
Alors, est-ce qu'il venait souvent pour le basket,
qui joue depuis très longtemps et qui a formé des joueuses qui sont aujourd'hui ou qui ont été en équipe de France. Et puis on accueille à domicile le Barry Basketball. Et donc le basket, c'est un sport qui se développe de façon incroyable, qui touche énormément les jeunes. On sent qu'il y a beaucoup d'engouement pour ce sport et qui par ailleurs porte des valeurs super. Donc tout est bon dans le basket et moi je suis vraiment heureux que ça se développe aussi dans les 18e.
Qu'est-ce que ça peut apporter pour les gamins du 18e justement de côtoyer des coachs du programme NBA?
D'abord, ça montre le respect qu'on leur apporte, le fait qu'on leur amène les meilleurs des meilleurs dans leur quartier, qu'ils puissent eux aussi avoir accès à ce qui se fait de plus grand, la NBA, la WNBA, c'est quelque chose qui fait rêver les fans de basket. Et puis, c'est aussi la démonstration qu'il y a des métiers dans le sport. On peut être sportif de haut niveau, c'est vrai, mais on peut aussi être coach, on peut aussi être organisateur d'événements. Et il y a plein de métiers qui peuvent cohabiter autour de cette notion de travailler dans le sport. Et donc, ceux qui sont amoureux du sport, peut-être vont découvrir d'autres vocations. Et en tout cas, ils vont garder des super souvenirs et ils vont savoir que, y compris dans le 18e, la NBA, elle trouve que notre quartier, elle est géniale.
Et justement, ce genre d'événement, qu'est-ce que ça peut susciter en eux, d'après vous ?
Vous pouvez leur poser la question, mais ce qu'on voit tout de suite, c'est d'abord un attachement à ce sport. C'est un sport en plus qu'on peut faire encadré, mais on voit aussi beaucoup de jeunes qui jouent dans les terrains d'équipe, dans les terrains à l'extérieur. Il y a beaucoup de squares qui ont des terrains de basket, donc on les voit jouer le soir, on les voit jouer après l'école. Ils ont adoré aussi le 3-3 qu'ils ont vu pendant les JO. Et donc il y a une diversité de façons de faire du sport avec le basket qui est très facile d'accès et très facile d'accès en ville. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de place, il n'y a pas besoin d'avoir un max d'équipement. Quelques joueurs, un ballon, un terrain de sport tout simple et on peut faire du basket encadré ou même tout seul. Et donc on peut faire du basket weekend, c'est vraiment un sport facile d'accès. Et nous dans nos quartiers, c'est aussi de ça dont on a besoin, de pouvoir faire du sport facilement sans toujours qu'il y ait une barrière. Et avec ça, et ben, la barrière elle tombe.
Eh bien tant mieux, ça prouve que on fait beaucoup de basket dans le 18e et donc monsieur le maire a répondu à nos questions.
Avec
c'est
le
bien.
Paris Basketball, bien sûr, qui est là-bas.
Porte de la Chapelle qui est pas loin.
Exactement. Voilà. Et puis, alors
ambiance maintenant.
Ambiance, est-ce qu'on a pu assister à cet entraînement, ces super entraînements de ces jeunes collégiennes? On va écouter tout de suite ce que ça donne. Oui.
On attend trois choses de vous, c'est de prendre du plaisir, de jouer collectif et de vous donner à fond.
And the second thing we want you to do is be an encouraging teammate. So sometimes you see someone do something well, make sure you really encourage them. Like, I see that you did that well. And maybe if they make a mistake, pick them up, give them some encouragement that they're trying, they're putting themselves out there, they're taking a risk, and we want to encourage that as well.
Et on veut aussi vous voir vous encourager entre vous. Quand il y a une qui va réussir quelque chose, on veut vous voir l'encourager, voire même l'entendre. Juste l'applaudir, c'est suffisant. Et à contrario, s'il y en a une qui rate, on va être là pour justement la rebooster, la remotiver.
And if you do that, if you work hard, you challenge yourself, you encourage others, you're going to have fun and you're going to get better today.
Si vous faites tout ça, que vous donnez à fond, que vous encouragez tout le monde, vous allez super vous éclater ce soir.
All right. So what we want to do is how about everyone...
Vanessa, qui vont s'en rappeler toute leur vie, ces gens.
Ah bah, je pense, hein, imaginez un coach NBA qui vient vous coacher, c'est l'occasion d'une vie. Hein. Oui. Moi, quand j'étais au collège, enfin au lycée, j'ai fait des stages l'été, et je peux vous dire que j'ai eu la chance de rencontrer aussi des grands coachs, et c'est quelque chose que vous gardez imprimé toute votre vie. Hein. J'ai fait un stage à Villard-de-Lans, il y a longtemps, en patinage artistique, avec Muriel Zazoui-Boucher. C'est quelque chose qui vous marque. vous n'oubliez pas. Et donc, là, en plus, elles ont eu la chance de le faire comme ça, une après-midi. C'est, je trouve ça génial.
Alors, on a bien les chiffres. Hein, ça, c'est bien plus de 900 000...
Alors, déjà, il y a eu 600...
On a battu des records.
Jeudi, donc, quand Vanessa y était, il y a eu 698 000 de téléspectateurs pour Canal+. Là, c'est que Canal+. Samedi, 691 000. Et un pic de 979 000. Donc, près du million. Donc, c'est incroyable.
Oui.
C'est fabuleux.
Bon, il y avait une exclusivité Canal en plus. Hein.
Ouais, non, en clair, c'est.
Ouais, ouais.
Ouais, non, mais franchement, c'était.
Plaisir.
Ouais,
ouais, c'est... Un plaisir.
C'était beau.
Alors, les championnats du monde de hand, c'était en 2017, je crois. Il y en aura bientôt d'autres en France ?
Le président, c'est. En fin de compte, maintenant, ça sera sur deux pays.
Oui.
Donc, le président a porté sa candidature. Je crois qu'elle a été actée. Ça sera aux alentours de 2000, je ne sais plus combien exactement, je ne me rappelle plus la date.
Ouais, ouais.
Écoutez, on va essayer de...
Ça avait été un beau succès en 2017.
Oui, 2017, ça avait été très très beau. Moi, j'avais eu la chance après de faire le championnat d'Europe avec les filles derrière.
Oui.
C'est des aventures, voilà. Ouais. C'est des aventures humaines. Ouais. On s'en rappelle, hein, je vous dis tout de suite, on s'en rappelle.
Bien sûr,
ces premiers jeux... Je pense que tous les athlètes, leur première sélection, leur premier jeu, tout ça, tout le monde sait ça.
Ça tombe bien. Les jeux, vous les avez vécus comment de l'intérieur. Vous avez été, vous avez Olympique, Paralympique, vous avez
Moi, j'ai eu la chance de faire, la première, c'était 2014. Ouais. J'ai fait les jeux,
Rio,
j'ai fait le champion du monde en Allemagne, où on a été champion du monde.
Ah oui.
Après, on a été les champions d'Europe en France, où on gagne le champion d'Europe. Alors en France, c'était incroyable. Non, franchement, c'est des aventures. On a été au Danemark aussi, et là, c'était le Covid, vous voyez. Donc, on est tombé plein Covid, et là, est arrivé. Deux jours d'après, on était consigné dans notre hôtel pendant trois semaines, et là, je peux vous dire
c'était plus dur, là. Ouais.
Eh bien, si vous n'avez pas une bonne ambiance entre vous.
Ah, comment vous avez vécu ça, justement, ça
formidable.
Ouais.
Parce qu'en fin de compte, vous savez, on était une trentaine, hein, parce qu'entre les joueuses, l'encadrement et tout ça, c'est là qu'on voit l'aspect humain.
Ouais,
l'aspect humain ressort entre les filles et puis le staff, quoi. Et on a fait des choses que, c'était... Moi, je m'en rappelle encore. Vous voyez, ils avaient fait un salon de coiffure. Ils avaient fait même moi, je suis passé au salon de coiffure. Vous voyez, donc, il y avait des tournois de baby-foot. Mais en intérieur de l'hôtel, mais c'était très dur. Franchement, c'était très, très dur parce que... Vous aviez un vigile devant l'entrée qui avait la porte, qui avait la clé de la porte, et quand vous rentriez dans le car pour aller à l'entraînement, vous reveniez, vous étiez fermé à clé. Tous les matins, on avait droit au l'échantillon
au test.
Il fallait venir manger avec des gants, des masques et tout. Je m'en rappelle, on a passé, c'était fantastique.
Alors, les résultats sont très bons dans les équipes nationales. Au niveau des clubs, chez les filles féminines aussi, Brest et Metz.
Brest, Metz, Paris 92.
C'est marrant quand même que Brest et Metz, comme ça, soient devenus des villes de hand.
Alors après, c'est l'aspect... Bon, il y a l'aspect Metz, ça fait des années quand même. Après, vous avez une Nantes, malheureusement, ils ont eu des petits soucis financiers. Besançon qui est une terre avec Besançon et Dijon qui sont quand même des terres en handball. Mais le handball féminin n'est pas reconnu à sa valeur. Et il manque d'investisseurs. Et la plupart des clubs, malheureusement, ont des soucis... financiers parce qu'ils n'ont pas des investisseurs comme il y a à Brest, à Brest.
Par contre, il manque une victoire en Ligue des Champions, quand même. Hein.
Oui, écoutez,
le
PSG, il y a été. Malheureusement, l'année où ils avaient une super équipe, ils avaient tous les joueurs, les meilleurs joueurs du monde à tous les postes. Et ça ne s'est pas fait.
Il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont ensuite monnayer leur talent à l'étranger, comme le foot, comme le rugby.
Notamment à Barcelone.
Oui,
non, mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer, que ce soit en garçon ou en fille, quel que soit, vous avez des niveaux, vous allez en Hongrie. La Hongrie.
Et là, on en vit mieux peut-être encore, non ?
On vit très bien.
Eh oui.
On vit très bien. Oui. Barcelone, vous avez Vespain en Hongrie. Avant, c'était l'Allemagne. Il y avait beaucoup de joueurs en Allemagne, en Hambourg. Guillaume Gilles, Hambourg.
Oui, bien sûr.
Et les filles, c'est pareil. Maintenant, les filles, elles vont beaucoup à l'étranger. La Hongrie, beaucoup.
Même dans les pays de l'Est, tu crois, l'Ukraine ou la Russie.
Non, la Russie. Il y a
l'Ukraine, ouais.
Mais bon, malheureusement. Alors, je peux vous assurer que.
Oui, j'ai vu un reportage.
Fille qui était là-bas, elle était ravie d'être là-bas. C'était une ville magnifique.
Ah oui,
magnifique. Il y avait beaucoup de choses à voir. Malheureusement, les problèmes sont arrivés, problèmes de guerre sont arrivés. Elle n'a pas pu finir son contrat.
Oui.
Ah. Et elle est revenue. Et puis là, maintenant, elle est partie. Elle a fait plusieurs trucs. Mais franchement, toutes les filles, elles sont financièrement, on s'y retrouve en Hongrie.
Alors vous n'avez pas de désavantage, c'est qu'il n'y a pas de report de match, puisque vous jouez toujours en indoor. Et puis, est-ce que le désavantage de votre sport, c'est pas qu'il n'y a que des salles limitées à 20 000, quoi. On pourrait faire 30 000, 40 000, mais ça n'existe pas, des gymnases à 30 ou 40 000 en France.
Alors, on pourrait...
Parce qu'ils se rempliraient. Hein.
Je peux vous assurer, avec le Paris 92, on a fait une expérience, on a été joué au Vélodrome.
Oui, de Saint-Quentin.
Et c'était un match contre Brest. On avait dit, à l'époque...
C'est 20 000, je crois, le Vélodrome.
20 000. Ouais. Et à l'époque, c'était Arnaud Gandet qui avait décidé de faire ça, qui était le directeur sportif. On a rempli.
Oui, ça m'étonne pas.
Le stade a été rempli, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il y avait une vraie ferveur. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les fans d'œil fort, quel que ce soit garçon ou fille, qui soit en Allemagne, soit en Hongrie, il faudrait que la fédération ou une ligue ou je sais pas avoir faire un vrai fan d'œil fort en France. Et je pense qu'on on a la salle à 25 000, l'arène.
Oui. L'arène. C'est Bercy le plus grand encore.
Non, c'est l'arène Nanterre.
Nanterre, la Défense, voilà, Arena, à Nanterre, voilà.
Et je suis convaincu.
D'accord, Bercy, c'est 20 000, non? Je crois 15 000.
Bercy, c'est 18 000, 19 000, 20 000, quoi, max.
Mais, quelque chose comme ça, ouais.
Et je suis convaincu qu'on ferait un fan-œil fort, garçon ou fille. Déjà, c'est une belle opération.
Ça fonctionne très, très bien, les Final Four.
Ouais, les fan-œil fort, et je pense qu'on remplirait la salle sur les 3 jours. Je suis convaincu. Vous allez. Moi, j'ai été joué en Islande avec l'équipe de France. La salle remplie, quoi. Oui, pour un match de qualif.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays nordiques, la Suède, l'Islande. Bah oui, c'est des sports d'hiver, donc fatalement, on n'a pas de problème avec, avec la météo dehors, puisqu'on joue en indoor, donc ça aide, quoi.
Ah, mais je pense aussi qu'il y a une politique sportive qui est autre.
Oui.
Ça aussi.
Les écoles font beaucoup de sport. Les jeunes sont libérés les après-midi pour aller faire du sport. Voilà. Il y a un autre style de vie aussi.
C'est ça.
Et moi, j'avais rencontré le gars qui était avec nous, qui s'occupait de nous. Il était en Suède. Eux, leur sport, ils le font après, quoi. Donc, ils mangent à 18h. Ils mangent à 18h, ils vont faire leur sport jusqu'à 21h, ils rentrent, ils font de la petite collation, ils vont au lit. Mais les gamins, avant, ils ont déjà été à l'école, ils ont déjà été au sport.
Ouais,
donc, il y a une autre philosophie sportive que nous, on n'a pas encore ancrée en France.
Ouais.
Pour quelle raison, je l'ignore. Ça, c'est des volontés.
Avant
que ça arrive, c'est bien dommage parce que je pense qu'il y aurait beaucoup à faire.
Très bien. Allez, la deuxième pause musicale. Ensuite, on aura notre ami Stéphane pour le foot. Et puis, on n'oubliera pas quand même le journal des sports avant d'Alexandre. Voilà, on va donc, après le hand et après le basket, naturellement, parler d'un troisième ballon. C'est le ballon rond, comme chaque lundi avec notre ami du quotidien du sport, Stéphane Desenclos. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Ouais.
Bon. Bonsoir à tout le monde.
Ouais. Bonsoir.
Ouais.
Bonsoir.
Bon Stéphane, donc on va naturellement revenir sur cette semaine de Coupe d'Europe, hein, avec deux victoires et deux défaites pour nos équipes. Le match référence probablement de la saison européenne pour le Paris Saint-Germain devant Manchester City, donc victoire 4-2. Victoire de Monaco aussi devant Aston Villa 1-0. Défaite par contre pour Brest face à Donetsk 2-0 et pour Lille face à Liverpool 2-1. J'ai envie de dire que finalement nos quatre équipes devraient se qualifier pour les barrages.
Bah, normalement, donc il y en a déjà trois qualifiés, ça c'est sûr, pour les barrages au moins, au minimum. Brest, Monaco et Lille qui ont toutes les trois 13 points, je crois.
Oui, enfin, ouais, Monaco, Lille et Brest, effectivement, 13 points dans un groupe de 6 équipes. Et le PSG, ben, ils sont 22e avec 10 points, mais bon, entre la 21e et la 24e place, mais ça devrait le faire.
Ouais, normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. Il faudrait assurer, sûr et certain, avec un match nul,
oui.
Au moins un match nul à Stuttgart. Et ça va. J'attends un peu avec curiosité. Je ne suis pas sûr qu'on assiste à un grand match de foot à Stuttgart, hein, parce que les deux équipes passent avec un match nul. Hein, donc,
Bon,
ça ne produira pas le spectacle.
Oui. Stéphane, c'est quand même de loin le meilleur match de Ligue des Champions du PSG cette saison. Hein.
Ah oui, sauf. De loin, je ne sais pas, avec l'émotion et tout. Maintenant, je sais que j'ai entendu dire, parce que je n'ai pas assisté à la conférence de presse, que Luis Enrique il continue de dire, je crois que je suis de l'Atlético de Madrid, il était pas mal quand même. Bon, c'est vrai que là, tu mets 4 buts.
Oui, mais là, on a été efficace. Paris a été efficace.
Voilà, l'Atlético de Madrid, on les a surpassés, je pense. D'ailleurs, le Diego Simeone l'a dit après le match. Tous les adversaires, de toute façon, du PSG, ils ont reconnu qu'ils avaient été plus faibles que le Paris Saint-Germain, hein, que ce soit PSV Eindhoven, à part le Bayern de Munich, bien sûr, et l'Arsenal. Sinon, oui, bah, c'est vrai que, de toute façon, tout est regroupé pour faire un match, je pense, moi, un match référence. Hein, donc, c'est évident, avec l'efficacité, avec... la rigueur, parce que même les buts, ils sont quand même pas chanceux quand même quand on y pense. Ils sont quand même pas très chanceux non plus. C'est un peu un concours de circonstances. On a fait quand même deux hors-jeu, dont certes, quand on a eu deux buts refusés pour hors-jeu, dont un surtout à genre 3 mm. On a fait une barre. Donc c'est vrai que c'était. En tout cas, tout y était. Hein,
oui.
L'efficacité, la combativité, la solidarité, le suspense, l'émotion, tout était dans. Oui, moi, c'est clair que même, moi, je pense même que depuis l'ère QSI, c'est facilement dans le top 5 des meilleurs matchs du Paris Saint-Germain.
Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais. Monaco, donc, qui bat Aston Villa. On avait un petit peu peur pour Monaco, bah, finalement.
Ouais,
Monaco.
Fait un très beau match.
Oui.
Très beau match aussi,
ouais.
Monaco.
Par contre, déception pour Brest, quand même. Hein, battu par Donetsk 2-0. C'était dans ses cordes, pourtant, Donetsk.
Ouais, je crois que c'est ce qu'on appelle un petit peu l'enflammade, hein, au foot, quoi. C'est-à-dire qu'au moment du tirage, on donnait peut-être 0 point ou 1 point ou 2 points à Brest. Et maintenant, comme ils ont fait des bons résultats, on pense qu'ils vont tout le temps être tout le temps cadrés. Il y en a même, je pense, qui envisagent que Brest puisse battre le Real Madrid, quoi. Alors que moi, je pense que la logique, c'est qu'il y ait 2-3 buts d'écart pour le Real Madrid au match de la semaine prochaine, de mercredi. Oui. Donc, il ne faut pas non plus s'emballer. Quoi. C'est Donetsk, effectivement, tout le monde avait l'air dans les papiers d'avant-match et tout. Je lisais l'impression générale, pas les joueurs, hein, ni Eric Roy, hein, mais c'était qu'ils envisageaient, ouais, ils prendront un point, c'est sûr. Et je me demande d'ailleurs même si toi, Philippe, tu ne me l'as pas dit ça aussi.
Oui, moi, je voyais Brest. Effectivement, je voyais Brest aller faire match nul devant Donetsk. Non, mais c'est vrai.
Ils pouvaient le faire.
Bien sûr.
Très bien le faire, hein, mais il ne faut pas oublier quand même Brest que là, maintenant, je crois qu'ils ont gagné la Havre, donc ils doivent être 9e, mais c'est quand même la deuxième partie de la Ligue 1. Même s'ils font des exploits, ils sont impressionnants en Ligue des Champions. Bon, c'est pas pour ça qu'ils vont gagner forcément tous leurs matchs.
Donetsk, c'est quand même pas un épouvantail européen, Stéphane, quand même. Je suis désolé.
Non, surtout, voilà. Je crois qu'ils ont pas. Je crois ouais. qu'ils...
Ça fait 4 mois qu'ils jouent.
Ouais.
Ils sont pas de championnat, je crois, en ce moment.
Donc en plus. Hein, donc c'est surtout ça la déception. Voilà. Et puis Lille, logiquement battu par Liverpool D1, j'irais même Lille s'en tire plutôt bien.
Ah ouais, Lille s'en tire plutôt bien parce que ils ont rendu les armes vraiment en se battant. Hein, parce que. Eux aussi, ils n'ont pas été gâtés parce que il y a eu ce carton rouge. Après, ils égalisent, ils sont un partout. Et puis, Liverpool doit quand même sa victoire grâce à un but très, très chanceux. Hein, puisque je pense que Lucas Chevalier était sur la trajectoire du ballon. Il frappe, elle est déviée. La trajectoire est complètement changée. Et donc, il y a but. Donc, c'est vraiment un but quand même assez chanceux. Et il y a eu des bons arrêts de Lucas Chevalier, mais il n'y a pas eu non plus des 50 exploits. Il y a eu des arrêts au niveau où il est. Je pense que non. Je pense que Lille, c'est une très, très… J'ai été très déçu, par contre, de la défaite en Coupe de France à Strasbourg. Très étonné de la défaite en Coupe de France à Strasbourg. Parce que Lille a vraiment bien… ils devaient être trop fatigués. Parce qu'effectivement, ils ont bien… Ils ont porté haut. Eux, ils ont une chance. Je pense que 16 points, tu as 90% de chance d'être dans les huitièmes. Et eux, ils vont jouer Feyenoord. Les deux clubs ont gros à jouer. Je pense qu'ils vont faire quelque chose de grand mercredi.
Oui, en tout cas, donc on est parti pour avoir nos 4 équipes en barrage. On retrouvera pratiquement tous les gros, sauf peut-être Manchester City, hein, 25e finalement, Stéphane, après sa défaite.
Non, Manchester City, ils vont passer.
Ils vont passer quand même les cracks, mais ils passeront. Ouais.
Ouais, ils vont passer parce que ils jouent chez eux, il faut qu'ils battent Bruges chez eux. Ils vont quand même beaucoup mieux, à part le Paris Saint-Germain d'ailleurs. C'est trop rigolo parce qu'après la défaite, les gens, tout le monde disait, surtout nos amis, nos très grands amis marseillais, tout le monde disait oui, mais bon, c'est quand même pas le grand City. Sur ce match-là, c'est vrai que c'était même le petit City, mais trois jours après, ils vont quand même battre Chelsea, ils sont quatrième de la Première Ligue. On n'arrête pas à nous dire, et particulièrement ici, je me rappelle l'année dernière dans l'émission Au bout du foot, les jeunes nous répètent tout le temps, la Première Ligue, c'est au-dessus, il n'y a pas photo, c'est 10 fois mieux, et ceci, cela. Bon, ils sont quand même quatrième de Première Ligue. Donc moi, je pense qu'ils vont faire, je les vois cartonner contre Bruges, et je pense qu'ils vont passer tranquillement au Manchester City.
Allez, en Ligue Europa, Lyon, malgré son nul à Fenerbahçe 0-0, est 5e avec 14 points. Lyon donc bien parti pour être qualifié directement. Par contre, depuis très longtemps, on sait que c'est fini pour Nice, battu par Elfsborg Boras 1-0. Nice donc avant-dernier, 35 points avec 35e avec 2 points.
Ouais, je ne vais pas faire l'original en disant que je trouve que c'est carrément honteux avec ce vrai problème qui est un vrai débat, c'est que on le voit, là, ils font un très bon match, un excellent match hier contre l'OM. Et ils sont donc actuels quatrième, je crois, hein, pour se battre pour l'Europe. Mais bon, si c'est pour faire ça, à quoi ça sert qu'ils laissent la place aux autres ? Parce qu'on a beau dire toutes les excuses du monde, il y avait des joueurs fatigués, il y avait ici, il y avait de ça. Et moi, personnellement, même si Francaise, on considère que c'est un grand, un bon entraîneur qui veut du jeu, qui a un système qui va toujours vers l'avant, qui pose des choses bien, je trouve que c'est honteux, quoi. C'est honteux, mais il a jamais, je pense, Nice n'a, depuis le premier match ou le deuxième match où ils ont perdu, je crois, contre ou le troisième peut-être, quand ils se sont pris une valise à la maison, je crois que c'est Glasgow qui est venu mettre une valise à l'Alliance Rivera, ils ont carrément baissé les bras, quoi. Mmh. Et là encore, il avait mis pour jouer. Bon, là, c'est un peu normal parce que je pense qu'il n'y avait plus du tout de chance de voilà. passer.
Ouais, ça fait un moment qu'il n'y en a plus.
ouais. Non, mais mathématiquement, avant d'aller perdre, je crois, la je sais pas où ils ont perdu le match d'avant, mais avant d'aller perdre là-bas, mathématiquement, ils avaient encore quand même leur chance, quoi, au cas où. C'était dur. Non, mais c'est vrai. Ils ont bafoué. C'est une honte parce que l'indice UEFA, bon, c'est vrai qu'on en parle comme ça. Ça peut paraître un petit peu bateau d'en parler, mais bon, mine de rien, ça pour l'ensemble des clubs français, et aller en Coupe d'Europe pour faire ça, franchement, je trouve que c'est une honte totale, quoi. Et qu'on ne dise pas que c'est uniquement parce qu'ils ont eu des blessés ou pas de chance, quoi.
Ouais. Non, mais malheureusement, ça arrive assez souvent pour certains clubs français. En Ligue Europa, on passe à la Ligue 1, 19e journée. On va quand même rappeler donc les principaux résultats. Auxerre, Saint-Etienne, match nul 1 partout. Monaco qui a battu Rennes et qui enfonce Rennes encore un peu plus, 3-2. Lille, ça c'est la déception, battu à Strasbourg 2-1. Paris Saint-Germain donc qui concède le nul face à Reims 1-1, mais qui reste quand même le grand bénéficiaire de cette journée de championnat. Brest qui va gagner au Havre 1-0. Nul entre Nantes et Lyon 1 partout. Lens qui bat Angers 1-0. Victoire de Montpellier à Toulouse 2-1, ce qui permet à Montpellier de sortir de la dernière place du championnat. Et puis Nice qui bat Marseille 2-0. Donc je l'ai dit, le Paris Saint-Germain, malgré tout, conserve toujours 10 points d'avance sur Marseille. 47 pour le PSG, 37 deuxième pour Marseille. Monaco 3e, 34. 4e, Nice 33. Et 5e, Lille 32. Et en bas de tableau, donc Nantes et Saint-Etienne sont 14e avec 18 points. Rennes, maintenant, est en position donc de barragiste, 16e avec 17 points. Montpellier, 17e, 15 points. Et c'est le Havre qui, du coup, est dernier maintenant avec donc 18e avec 13 points.
Oui, tout à fait. Bah, le comment dire, même quand tu dis ils conservent toujours, non, c'est même pas ils conservent, c'est qu'ils ont pris un point de plus.
Oui, oui, oui.
Un match nul et que Marseille a perdu à Nice, où le Paris Saint-Germain, du reste, avait été fait un match nul. Mmh. Donc, Nice avait quand même montré qu'ils étaient une bonne équipe, hein, une bonne équipe en Ligue 1, en tout cas. Donc voilà, maintenant, c'est ce que c'est... Marseille, je pense que c'est Marseille même qui fait la très, très, très mauvaise opération.
Absolument.
Le week-end particulièrement, parce que Lyon revient quand même, Monaco, je ne sais pas combien Monaco et son point, là, je n'ai pas le classement.
Monaco, ils sont 3e avec 34 points. Nice à 33 et Lille 32.
Ils sont à combien de points de Marseille ?
Qui, Lille ? 5.
Non, Monaco.
Monaco, ils sont qu'à 3 points, un match.
À 3 points de Marseille. Oui. Voilà. Bon, quand tu sais que le prochain match, par exemple, tu as Marseille-Lyon. Et que Lyon, il commence à être un peu au pied du mur. Mmh. Il va peut-être falloir qu'à un moment donné, ils sortent un gros match, quoi. Donc, il y a de quoi quand même s'inquiéter, quoi. Alors, ouais. Pour le coup, ils ont, c'est eux qui sont. Alors, c'est pas nul de perdre. Ils ont pas été bons, mais bon, c'est pas non plus une catastrophe de perdre un match à Nice. Il y a quand même pire.
Oui, surtout que Nice est sur une série d'invincibilité là.
Voilà, ouais. Il y a pire, je veux dire, quand tu vois l'équipe, quand tu vois le match, même s'ils ont été très mauvais. Peut-être que certains supporters, on le voit déjà un petit peu, certains supporters marseillais commencent un peu à s'interroger quand même des fois sur certains choix, certains choix, oui, de Zerbi, du coaching de Zerbi. Hein. Le pauvre, il a été effectivement... mauvais hier, mais le titre de l'utilité de remettre Brassier sur ce match-là, un match très 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 tendu avec un attaquant notamment Evan Guessant qui est très très fort, mettre Brassier, c'était pas forcément lui faire un cadeau non plus, quoi. Moi, c'est ce qui m'a laissé tout le match, en plus deux erreurs de but, quoi. Donc même pas deux erreurs, cinq erreurs, parce qu'il y en a quatre erreurs, il y a un but où il fait trois erreurs de suite. Et quand on voit les erreurs que fait Brassier, on comprend tout de suite que c'est même pas à la limite parce que c'est un mauvais joueur, c'est parce que c'est un mec qui est tendu comme une arbalète, qui est vraiment, c'est le coup de soin, si t'as regardé le match, je suppose, Philippe,
oui.
Comment n'importe qui regarde le match, quand il court pour revenir vers le ballon, tout le monde se dit, ah bah c'est bon, il va le sauver, quoi, en taclant le ballon ou un truc comme ça, quoi. Et je pense qu'il essaye de faire, mais à chaque fois, le mauvais geste, quoi. Même Balerdi, je crois, est en train de lui dire, il sent qu'il va tacler, il dit, mets-la plutôt par là, parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté, il essaye de lui montrer dans le sens où vous mettez. Enfin bref, je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas apte à jouer ce match-là. Ouais.
Allez, la Ligue 2, Stéphane, c'était il y avait un derby, hein, un derby francilien, avec le Paris FC qui a écrasé le Red Star 4-0, victoire de Metz devant Grenoble 3-0, Lorient qui bat Clermont 3-2, et Guingamp qui va gagner à Caen 1-0. Ce soir, il y a aussi un match important, c'est Annecy-Dunkerque, 20h45, parce qu'on va voir que les positions sont toujours aussi serrées en Ligue 2. Lorient en tête avec 40 points, devant Metz et le Paris FC 37 points, mais un goal average supérieur pour Metz, hein, plus 16 pour Metz et plus 12 pour le Paris FC. Guingamp est 4e à 35 points et 5e donc en embuscade. Laval, Annecy et Dunkerque avec 33 points. Et en bas de classement, eh bien, Clermont est 12e avec 24 points. Rodez 13e, 23 points. Le Red Star 14e, 22 points. Et puis Ajaccio et 3 se partagent la 15e place avec 21 points. 17e, Caen qui s'enfonce encore un peu plus avec Martigues donc 15 points.
Ouais, tout à fait. Bah, et puis, on en parlait, il y a 15 jours, oui. On a parlé d'Ajaccio en disant qu'Ajaccio, c'était catastrophique, ils n'allaient peut-être pas finir la saison et tout. Bah, depuis, quand même, ils ont gagné deux matchs. Leurs deux matchs, en tout cas, ils ont gagné. Et c'est quand même un énorme coup de chapeau à cette équipe quand même, qui a vraiment son destin très, très menacé. Qui se bat pour essayer de quoi, ils se battent en coulisses les Corses pour essayer de trouver les moyens de s'en sortir. On pourrait penser que l'équipe s'écroule et au contraire l'équipe elle gagne des matchs. Elle en est déjà à 2 victoires. Elles sont en train de, je me demande si c'est pas les 2 à l'extérieur d'ailleurs. Je sais pas ce qui là, c'était à Rodez la semaine d'avant, je sais plus, mais en tout cas ils sont là et ceux qui sont devant, ils ont intérêt à faire attention aussi parce qu'ils reviennent. On les avait condamnés peut-être un peu vite. Hein.
Oui.
Comme Martigues d'ailleurs. Oui. Martigues a gagné, je crois, non?
Oui. Et puis Caen qui s'enfonce comme Rennes un petit peu en Ligue 1. Voilà. Bah, quand,
voilà, quand, ça, quand, avis, ouais. Je n'aurais pas cher de leur chance. Hein. Franchement, comme Rennes, on en parlait tout à l'heure, c'est une catastrophe. Si ce n'était pas Sampaoli, ça serait. Et il serait déjà reparti, à mon avis, il serait déjà en train de faire ses valises, le entraîneur.
Allez, en national, il y avait aussi un autre derby, et un derby qui a eu début, hein, puisque donc Versailles, qui menait pourtant 3-0 à la mi-temps, ils ont été rejoints en deuxième mi-temps, 3-3 donc face au Paris 13 Atlético. On va noter la victoire de Nancy à Concarneau 2-0, et le nul de Boulogne-sur-Mer contre Bourg-en-Bresse 1-1, et la victoire de Valenciennes devant Orléans 1-0. Donc Nancy toujours en tête, 33 points, devant Boulogne-sur-Mer, deuxième 30 points, troisième Orléans 29, et le Paris Atlético 13, bah, qui prend un petit peu le large par rapport à la relégation, hein, qui est 12e avec Rouen 19 points. Par contre, 14e Villefranche en Beaujolais 17 points. Et c'est surtout Versailles qui s'enfonce aussi. Maintenant 15e avec 16 points, alors que Nice est 16e avec 15 points. Et Châteauroux, donc 17e, 13 points. Ça devient aussi critique pour Versailles. Ça va un peu mieux pour le Paris 13 Atlético.
Je pense que Atlético Paris 13, ils ont pris le bon pas, visiblement la confiance, peut-être la saison les deux, pas la saison dernière mais la saison d'avant, leur sert de beaucoup d'expérience, parce que ils font ce qu'il faut. Et là, quand t'es mené 3-0 à la mi-temps chez une équipe qui avait quasiment le même nombre de points, qui avait 2 points, quoi, ils passaient devant Versailles en tout cas. Et c'est eux qui se retrouvaient peut-être pas relégables, mais au-dessus de la zone de relégation. Et d'arriver à mettre 3 buts pour revenir, c'est fort, ça.
Ouais.
C'est très, très fort.
Hein. Oui, c'est. Ce sont des signes. Allez, un petit mot avec les féminines. On finit. Bon, il n'y avait pas de championnat, hein, mais on sait que c'était un tour de Coupe de France sans Lyon. Hein, Stéphane, on en avait parlé donc les précédentes semaines, puisque Lyon est éliminé. Mais les clubs parisiens ont cartonné quand même. Hein, le Paris Saint-Germain qui s'impose assez largement à Nantes 6-1. Le Paris FC qui bat La Roche-sur-Yon 6-0. Il n'y a que Florent Mérogis, le francilien, éliminé. Donc battu 4-2 au tir au but face à Toulouse après un nul 3 partout.
Ouais, tout à fait, merde. On va, euh, on on va directement vers une finale. Normalement, on va vers une finale directement vers une finale Paris Saint-Germain, 100% parisienne, hein, Paris Saint-Germain, Paris FC, parce qu'aujourd'hui, il y a eu les tirages au sort des quarts de finale,
oui,
et des finales et des demi-finales dans la dans, oui, la, dans la dans la dans la foulée. Et le Paris FC jouera contre Dijon, donc l'équipe
bon surprise
quand même, qui termine quatrième. Le PSG qui est dans la partie adverse, je me rappelle plus de tête tout le temps, mais le PSG va jouer au Mans, qui est donc une équipe de D2.
Comme en Coupe de France pour la Ligue 1.
Ouais. Ouais, ouais, ça c'est assez rigolo, hein, c'est le même, ouais, truc. Et dans le PSG, s'il gagne, rencontrera le vainqueur de Lille-Saint-Etienne, c'est-à-dire, d'accord, Lille qui est en Ligue 2, en D2, et Saint-Etienne qui est 8e. Mmh. Et le Paris FC qui est de l'autre côté, donc ne tombera pas contre le PSG, en demi-finale jouera le vainqueur de Le Havre-Toulouse. Oui. Le vainqueur de Le Havre-Toulouse.
Oui.
Donc il y a des grandes chances, normalement. On va dire que l'équipe la plus élevée que le Paris Saint-Germain risque de rencontrer, c'est le 8e de... C'est le 8e de Ligue de D1 Arkema pour aller en finale. On peut penser que Paris va y aller. Maintenant, Paris FC de son côté joue Dijon et après Le Havre ou Toulouse. Toulouse D2 et Le Havre qui doit être. Je crois que Le Havre, ils sont 11e, quelque, ouais, chose comme ça. Donc voilà. Donc c'est normalement, maintenant en foot, hein, tout est.
Bien sûr.
Personne n'aurait parié que Lyon perde au pénalty, au tir au but contre Reims. Hein, donc, en tout cas, on va vers ça, en tout cas. Finale le 3 mai à Calais.
Très bien. Chez Jacques Vendroux, là-bas. Merci, ouais, merci, ouais, Stéphane. Exactement. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, hein, pour ce point, okay, bah, foot très, très complet. Merci, Stéphane.
Ah bah ouais.
Voilà.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Bonne soirée.
À toutes et à tous. À plus.
Au revoir. Salut. Voilà. Ça vous a plu, le point foot? Vous aimez le foot, hein, ouais, aussi, bien, Philippe?
Oui, ouais, tout à fait, je suis tous les sports.
Oui, c'est assez complet. Allez, eh ben justement, on va continuer maintenant. Comme vous aimez tous les sports, c'est comme nous, avec le journal Omnisport de notre ami Alexandre. Vous allez voir, il est copieux et bien rempli encore cette semaine.
Il est bien, bien copieux. Ah, on, oui, commence ce journal des sports avec le tennis, bah, et les, sûr, résultats de l'Open d'Australie à Melbourne. C'est le numéro 1 mondial italien Jannik Sinner qui remporte son 3e grand chelem en dominant Alexander Zverev 6-3, 7-6, 6-3. Chez les femmes, c'est la numéro 7 mondiale américaine Madison Keys qui a remporté l'Open d'Australie face à Arina Sabalenka de 7-1. On ouvre une page de sport divers, ça va faire plaisir à Vanessa comme, oui, d'habitude.
Et les résultats ont été très bons. Hein.
Un beau week-end, oui, de nos Français en Coupe du Monde de ski alpin à Kitzbühel. Clément Noël remporte le slalom en 1 minute et 41 secondes.
La plus importante descente de la saison de ski. Hein,
Kitzbühel, absolument.
C'est le chemin, hein.
Devant l'Italien Vinazzer et le Brésilien Braten. Au classement général, le Français remonte à la 6e place, donc c'est bien. Chez les femmes, il y avait également la Coupe du Monde à Garmisch-Partenkirchen. Mmh. Et victoire de la Suisse Gutberami en 1 minute et 14 secondes. Miradoli est la première française et arrive 10e. Au classement général, l'italienne Federica Brignone est toujours leader devant Gutberami et Camirast. À Antols Anterselva en Italie, il y avait les épreuves de biathlon. Mmh. Chez les hommes, c'est Lagrède, comme d'habitude, le Norvégien qui a remporté cette épreuve de poursuite. Perrault et Fillon Maillet sont arrivés 7 et 8e. En relais chez les femmes, la France, avec notamment Lou Jean Monod, est arrivée 3e derrière la Suède et la Norvège. En ski freestyle X-Game, ouais, Tess les deux gagne le slopestyle et sa 12e médaille d'or,
ah, oui, oui,
c'est,
oui,
un record.
Ouais, ouais.
Et en ski à bosse, Perrine Laffont,
oui,
signe un incroyable doublé à Waterville pour son 100e départ en Coupe du Monde.
Et c'est bien, elle a fait un petit break et revient pour les Jeux, c'est très bien. C'est une fille que j'aime bien aussi.
Ouais.
Ouais. Ouais.
On enchaîne, Philippe, avec, ouais, le rallye.
Ah oui, le premier de la saison, le mythique, le rallye de Monte-Carlo.
L'inévitable, ouais, rallye de Monte-Carlo et victoire du Français, Ogier. Sébastien Ogier, sa 10e,
ah,
victoire,
oui, ouais, de sa carrière sur le Monte-Carlo. Ouais.
Juste derrière lui, donc c'est le Britannique Elfyn Evans et puis un autre Français qui termine dans le podium, ouais, Adrien Fourmeau. Un point Vendée Globe, comme d'habitude,
oui.
Car
parce
même
que
si Charlie Dalin...
Ça continue.
Oui, ça,
non,
continue.
Non, mais c'est pas ça.
Même
c'est
si Charlie Dalin et les premiers skippers, ouais, sont arrivés, tu l'as dit, Justine Métro,
eh oui,
qui franchit la ligne d'arrivée de son premier Vendée Globe en 8e position après 76 jours en mer. Elle chip à Clarisse Kremer,
ouais,
le statut de femme la plus rapide,
ouais,
à
de
faire
de l'histoire
du
Globe. Ouais. Voilà. C'est phénoménal quand même.
Phénoménal.
Hein.
Ouais, franchement, ouais, j'ai beaucoup de respect, ouais, pour, ouais, ces gens-là.
Et ils vont à La Rochelle, hein, parce qu'ils
vont à La Rochelle.
Ils peuvent pas rentrer.
En rugby, 15e journée de top 14 et le Racing 92 a perdu contre Castres Olympique 27-20 et le Stade Français perd également contre Vannes 33-28. Saison très compliquée hein, pour nos deux clubs franciliens puisque le Racing est 12e et le Stade Français 13e.
Attention le Stade Français.
On ne se comprend pas trop ce qui se passe. Hein.
Très compliqué. Le prochain match, le 15 au Stade Français contre Pau.
Très déterminant.
Ouais. Parce que s'ils perdent, je pense que la gamelle...
Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. En basket, on jouait la 23e journée d'Euroleague cette semaine et défaite du Paris Basket contre le Partizan 92-86. Ils avaient bien commencé. Malheureusement, là, ils descendent à la 5e place, mais avec un match en moins. Monaco a gagné contre le Virtus Bologna 86-80. Et Lyon-Villeurbanne a gagné une victoire importante contre Barcelone 194. Lyon-Villeurbanne est 14e et Monaco est 3e. Les résultats de la 17e journée de Betclic Elite aussi, et les Parisiens sont imposés face à Cholet 90-77. Victoire importante des Parisiens qui reviennent à égalité de Cholet à la première place. Et les Nanterrois, eux, malheureusement, ont perdu contre Bourg-en-Bresse 197 et pointent à la 13e place. Bien évidemment, on revient rapidement sur la NBA.
Rappelons-moi les résultats.
Paris Game, notamment des Spurs de Victor Wembanyama qui affrontaient les Pacers. Victoire du premier match 140-110, mais défaite lors du deuxième 136-98. Handball, ça va faire plaisir à notre invité du soir. Tout se passe bien pour notre équipe de France dans ces championnats du monde. Cette semaine, nos Français ont remporté leurs trois matchs, 37-30 contre la Hongrie, 35-28 contre les Pays-Bas et 32-25 contre la Macédoine du Nord. Les Français sont premiers de leur groupe, 3 points devant la Hongrie et joueront demain en quart de finale contre l'Égypte. Chez les femmes, pas de championnat, mais Ligue des Champions pour Metz qui gagne contre Podravka Vegeta 28-26 et pour Brest qui perd face à Ludwigsburg 28-26. Au classement, les Messines sont premières et les Bretonnes deuxièmes. Donc franchement, là, on est très très bien au niveau des filles en Europe. En volleyball, on jouait la 18e journée de Marmara Spike League et Paris a perdu son match du week-end 3-1 contre Poitiers. Pareil pour le Plessis Robinson qui perd face à Tourcoing 3-2. Au classement, le Plessis toujours dernier et les Parisiens sont 8e. Chez les femmes, pareil, 18e journée de Ligue A et victoire de Levallois Paris 3-1 contre Mulhouse. Le club de Haute-Seine pointe à la 4e place du classement, à un petit point seulement du leader Vendôme-Nancy. Et on termine, Philippe, ce journal des sports.
Avec le championnat du monde des trotteurs.
Voilà, le prix d'Amérique d'hippisme à Vincennes. Et c'est le crack normand Idao de Tillard, vainqueur l'an passé, qui s'impose et s'offre un doublé rare. Il s'en sort avec une belle somme de 450 000 euros.
Et tu sais qui est-ce qui a remis le trophée ?
Teddy Riner.
Et puis un petit mot aussi, très rapidement, le champion du monde, Ilya Malinin, a remporté son 4e titre. Il a balayé la concurrence avec 47 points sur son dauphin. Donc c'est même plus un championnat, là. C'était une victoire de folie.
Et on en reparlera la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Patinage, parce qu'il y a les championnats d'Europe.
Exactement.
Merci en tout cas, Philippe. Ça a été un plaisir. J'ai vu que vous étiez très réceptif à tous les sports. Hein. C'est bien.
J'adore le sport.
Ouais, comme nous.
Le sport, c'est la vie.
Absolument.
Exactement.
Voilà. Ça sera le mot de fin. Merci en tout cas. Merci à Jason pour la mise en route de cette émission sur le plan technique. Dans un instant, c'est au bout du foot, l'émission qui va prolonger.
À laquelle tu vas participer.
Oui, de temps en temps, il faut bien que j'aille quand même. Bon, voilà. Allez, belle soirée à toutes et à tous. Et on finit en musique. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Bonne soirée.
Je vis d'amour et de risque. Quand ça va pas, je tourne le disque. Je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis